souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit dans l'after avec Jérôme Rotten, avec Jonathan McCarthy. Tout à l'heure, on parlera foot sud-américain. Après 23h, on fera l'équipe type, l'équipe pipe du Nîmes Olympique. Ce soir, supporters de Nîmes, soyez au rendez-vous tout à l'heure. Bien sûr, le PSG est au programme dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on conclut sur ce match Rennes-Arsenal. Arsenal qui a perdu 3-1 à Rennes. Magnifique victoire des Rennes. Et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Julien, tu connais par cœur ton Arsenal. De ce que tu connais d'Arsenal cette saison, est-ce que tu penses que la qualif est encore possible pour eux?
Ah oui, bien sûr qu'elle est possible, comme disait Jérôme tout à l'heure, j'écoutais ce qu'il disait. 2-0 à domicile, c'est un score tout à fait plausible et possible pour cette équipe d'Arsenal qui est beaucoup plus forte à domicile qu'elle n'a été à l'extérieur cette saison, que ce soit en championnat ou aussi en Ligue Europe. Elle a perdu à battre Borisov par exemple 1-0 au tour précédent et elle a gagné 2-0 à domicile la semaine suivante. Donc c'est pas du tout impossible pour eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment à 10 contre 11 en seconde période, ils ont été très en deçà de leur niveau.
On est surpris par Rennes en Angleterre.
On est surpris. C'est vrai qu'au début, ce qui les intéressait beaucoup, ce qui les faisait rire, c'était Salma Hayek, c'était d'avoir un président et un propriétaire comme Monsieur Pinault. Et c'est vrai que d'avoir une star hollywoodienne comme femme du président, ça les amusait beaucoup. Et Rennes était inconnue ici de toute façon. Hein. Donc c'est vrai qu'ils ont été surpris agréablement, je pense. Atem Ben Arfa a rappelé des bons souvenirs aux Anglais, notamment en seconde période. Un joueur comme Ismaïla Sarr qui est très coté ici en Angleterre. Très suivi, beaucoup de clubs, dont Arsenal hein, d'ailleurs, sont très intéressés par lui et par peut-être un transfert cet été ou en tout cas à assez court terme. Forcément, voilà, c'est une performance qui a marqué les esprits ici, même si encore une fois il y a un match retour à faire et c'est pas non plus gagné d'avance pour Rennes.
On parlait du niveau d'Arsenal, du milieu de terrain d'Arsenal tout à l'heure, d'Ozil et tout. Bon, c'est quand même un peu flippant par moment. Hein.
C'est flippant, ouais, t'as raison. Chaka, c'est Jonathan qui vient de dire Chaka ou Jérôme. Ouais. C'est une énigme pour moi. Je pense que c'est un joueur qui a quand même des qualités, qui a du potentiel et qui.
Arrête avec ton potentiel, arrête.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que.
Le faux bon joueur. Non mais je te jure, franchement, il a tout du beau joueur de football. Avec son pied gauche, la façon de contrôler, de s'orienter et tout ça. Mais quel faux joueur.
Cette jalousie envers les autres gauchers.
Mais c'est pas possible. Il te met une frappe tous les 30 matchs et d'un seul coup, on dit, oh là là, il a un pied gauche incroyable, la puissance. Après, c'est catastrophique dans
Trouve maladroit défensivement.
C'est catastrophique dans deux choses. Pour un milieu de terrain qui joue comme ça, assez bas sur le terrain, dans la lecture du jeu, l'orientation du jeu, et alors après, les passes longues, mais écoute-moi bien. Avec le pied gauche qu'il a, normalement. Tu devrais avoir quasiment zéro déchet. Lui, c'est 99% de déchets.
Et il fait beaucoup de fautes aussi.
Ouais, bah ça encore.
Ça, il a toujours fait. Hein. Ouais. Il a toujours fait
des côtés agressifs, parfois dangereux, quoi. Tu vois.
Mais le problème, c'est qu'il sait pas tacler. Donc dès qu'il essaie de faire un tacle, c'est très compliqué pour lui.
Ça commence à être gênant. S'il peut pas faire de passe longue, qu'il sait pas tacler.
C'est
la vérité.
Oui, il a toujours joué à un mauvais poste pour lui. Hein. De toute façon, jouer devant la défense, c'est pas fait pour lui, c'est pas possible.
Julien, toi, t'en as vu comme moi des matchs de lui. Hein. On en a commenté beaucoup.
Ouais.
Tu le vois à quelle position? Parce que moi, franchement, j'ai du mal à me. Il a été essayé côté gauche de la défense. Il a été essayé dans le milieu de terrain. Il a été essayé un peu plus haut sur le milieu de terrain. Tout seul en 6. Il y a aucun poste qui lui correspond. On va pas le mettre à droite quand même.
Non, t'as raison, je pense quand même dans un milieu à 3, lui sur le côté gauche avec une sentinelle derrière.
Torreira en sentinelle.
Qui pourrait rattraper ses conneries par exemple, tu vois, qui pourrait rattraper son mauvais positionnement, parce que ça aussi au niveau positionnement, au niveau de l'intelligence de jeu, il y a quand même...
Mais c'est horrible.
Et toujours un mètre après... trop loin du joueur qui marque.
Ouais, après le problème pour Arsenal aussi, c'est que dimanche t'as un match incroyable, tellement important contre Manchester United, et qu'à un moment Unai il a été obligé de faire des choix. Je pense que Guendouzi aurait dû être titulaire, aurait dû jouer aujourd'hui.
Un super joueur. Hein.
Ah, je sais pas, Guendouzi fait une très très bonne saison pour sa première saison à l'étranger à 19 ans.
Tiens,
c'est meilleur que Chaka. Hein.
Bouge pas.
Que Chaka.
On va l'écouter. Guendouzi, c'était tout à l'heure sur RMC Sport.
On savait que c'était une bonne équipe. On savait qu'à domicile, ça allait, enfin à l'extérieur, ça allait être compliqué chez eux. Et avec le carton rouge, ça nous a pas facilité les choses. On gagnait 1-0, on avait le match en main, on avait la possession de balle, on était bien dans le match. Après, se prendre un carton rouge juste avant la mi-temps et se prendre le but juste avant la mi-temps aussi, ça fait mal. Donc, mais voilà, comme je l'ai dit, on n'est qu'à la mi-temps de cette double confrontation. Il va nous rester un match très important à la maison. On sait qu'à la maison, on est très fort, donc va falloir le démontrer.
Il y a eu deux tournants en première période. Vous l'avez dit, le carton rouge. Mais avant, dans la première demi-heure, qui vous est favorable, vous auriez pu porter le score à 2-0.
Ouais, je pense qu'on avait on a les situations pour marquer le deuxième but. Après, on a fait les mauvais choix, on n'a pas su finir sur ce match. Mais voilà, au moins on sait qu'on a eu les situations, donc on sait qu'on va les avoir encore au match retour. On va travailler, on va bien préparer d'abord le match contre Manchester ce week-end et après le match contre Rennes. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, voilà, on a un match retour à la maison. On sait qu'on est très fort à la maison devant nos supporters, et j'espère que ça va le faire.
Tiens, enchaînons. Petr Cech, ancien Rennais, qui a fait son match. Hein, ouais. D'ailleurs,
ce soir,
on l'écoute également réagir à la performance d'Arsenal.
Je pense que, évidemment, on a voulu faire un résultat mieux que ça. On a bien commencé le match, on a marqué le but qui était important. Mais après, le match est changé à la fin de premier mi-temps quand on avait un joueur expulsé et en plus. Après l'explosion, on a encaissé le but. Et pour le deuxième mi-temps, je pense qu'on était sous la pression, mais quand même on était toujours dans le match. Mais malheureusement, on a marqué un but contre notre camp qui était un petit peu malheureux, mais ce qu'il a fait la différence dans le match. Mais malgré tout ça, je pense que 2-1 c'est un résultat à l'extérieur qu'il est pas mal. Mais le troisième but qui a fait beaucoup dommage, parce que là, 3-1, évidemment, c'est un résultat très favorable pour Rennes.
Bon, il n'a pas perdu
le malin. Français,
il se balade.
Il est malin. Hein. Résultat très favorable pour Rennes. Tu vas voir que ça va être très difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le...
Dans facilité au match.
Ouais, parce que, alors bien sûr qu'ils vont se méfier, mais dans les discours, quand t'entends, tu me disais Ben Arfa et tout, il faut qu'ils se rendent compte que ça va être difficile, quoi. Très difficile, et que il faut absolument que Julien Stéphan arrive à trouver les mots de ce côté-là pour que ils se disent voilà, si on se qualifie même avec un résultat positif au match aller de 3-1, ça c'est un véritable exploit. S'ils partent dans cet état d'esprit-là, je suis persuadé qu'ils peuvent le faire, les Rennais. Sinon ça va être dur.
Enchaînons avec Manchester, puisque Julien est là. Est-ce qu'aujourd'hui à Manchester, on s'est réveillé en se disant mais c'est incroyable le cadeau de Noël que nous a fait le PSG au mois de mars. Est-ce qu'on dit bon quand même vu le scénario finalement c'est pas si mérité que ça. Enfin quelles sont les réactions aujourd'hui à Manchester, Julien, après ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes?
Eh ben c'est ni l'un ni l'autre, Gilbert. C'est le grand Manchester United est de retour. Solskjaer est un génie. C'était.
Ah parce que là c'était le grand Manchester United hier.
Ah oui, c'est le grand Manchester United. Bon. C'est le Manchester United avec du flair qui lâche jamais rien. Ah non mais c'est assez incroyable. Après voilà qui soit revenu de si loin, je comprends très bien qu'à un moment tu puisses t'enflammer un petit peu et tu savoures et c'est tout à fait logique.
Oui, de là à dire que c'est le grand Manchester United, bon.
Ça me gonfle.
Ah oui c'est. C'est le grand Manchester United qui est de retour, c'est Solskjaer qui est, comme je l'ai dit, un génie absolu tactique, comme on en a parlé hier dans l'émission hier soir. C'est
Non mais les Anglais d'habitude ils savent analyser le foot, non ?
Ouais, mais là très peu. Tu parles très peu de des deux erreurs, celle de Kerrer et de Buffon surtout. Il y a débat autour du penalty, bien sûr, et de la VAR. Un joueur comme Rio Ferdinand, par exemple, qui est maintenant consultant la télé. Il pense que c'est pas qu'il y a pas penalty. Pense que Kimpembe saute, et il peut pas mettre ses bras ailleurs, que il a pas ses bras en l'air, qu'il fait pas son, tu sais, la règle d'augmenter
la surface. Alors attends, Rio Ferdinand, j'ai les déclats là. Rio Ferdinand dit je me moque de ce que les arbitres diront. Il y a pas main. Le règlement est mauvais, dit Rio Ferdinand. Et t'as Michael Owen qui en rajoute une. Il dit pour moi il y a jamais penalty. Et on s'aperçoit, dit Owen, qu'avec le VAR, c'est que les anciens footballeurs pensent tous qu'il n'y a pas pénalty, mais que chaque arbitre pense qu'il y en a. Donc il y a un gouffre entre ce que pensent les joueurs et les arbitres, dit Michael Owen.
Mais il a raison, mais souvent on le met en avant, que l'expérience de nous les joueurs sur le terrain par rapport à des actions comme ça arrêtées, je pense qu'il devrait s'appuyer sur l'expérience des anciens joueurs, en effet, pour mettre en place des règlements.
Et alors... Neymar, vous avez vu ce qu'a dit Neymar? Ah, Neymar dit lui.
C'est pareil, Neymar, hein.
Neymar, ouais. Il dit, c'est une honte. On met quatre gars qui comprennent rien au foot pour revoir un ralenti. Comment le gars va commettre une main s'il est de dos, qu'ils aillent se faire, voilà. Alors d'ailleurs, il pourrait très bien être, avoir une sanction, ouais, hein, pour Neymar.
Il y a deux choses là-dedans.
Donc là, c'est la levée de bouclier des joueurs contre le VAR, quoi. Enfin, contre les mecs, en tout cas, bon, qui analysent les images.
Non, mais surtout, il y a deux petites choses. C'est que, apparemment, les deux arbitres qui s'occupaient de la VAR ce soir-là, c'est les deux arbitres italiens, là. Tu sais, qui ont fait pas mal de boxons sur des situations comparables en Serie A.
Et les siffles à chaque fois, c'est
pas voilà, c'est ça, ouais. Et par contre, sur l'action, moi, je suis d'accord, tu vois, parce que la règle pour l'instant, c'est l'intentionnalité de la main, là. Comment tu peux faire, ouais, t'es de dos, mais il a pas sauté de dos.
Il y a deux choses. Il y a l'intentionnalité de la main et
l'extension de la surface corporelle.
Voilà, exactement.
Mais là, il a pas sauté de dos. C'est une erreur.
Ah, mais c'est une erreur de Kimpembe. Moi, je le disais tout à l'heure. Déjà, on t'apprend, et encore plus aujourd'hui par rapport à ce règlement sur les mains.
Moi, j'ai pas joué. Il faut rester face. Mais on m'a joué défenseur. On m'a toujours dit, il faut rester. Tu sautes de face.
Mais à tous les niveaux.
Si tu t'apprends dans la poire, tu sautes de face.
T'apprends. Alors après, c'est un mauvais réflexe de Kimpembe de sauter comme ça. Le fait. Si t'as un peu joué au football, tu fais une extension, bien sûr que tu te sers des mains et des bras pour aller plus haut,
mais
pour contrer le ballon,
de face pour pouvoir maîtriser tes bras.
Donc ouais, de face oui, mais de dos tu peux pas te dire je vais sauter la main, du moins le bras à coller, parce que c'est un geste naturel. Et donc rien que pour ça. Et après il y a une dernière chose que on ne dit pas, et c'est pour ça que Ferdinand et Owen entre autres. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi, c'est le ballon, il est pas dans le cadre. Le ballon, il est hors cadre. Donc il serait allé dans le but. Déjà, Stéphane Lannoy nous disait que s'il était cadré, c'est carton jaune. D'accord. Là, il y a pas de carton, donc l'arbitre, en plus de ça, il voit que le ballon est pas cadré, donc je vois pas l'intérêt d'avoir sifflé penalty. Mais il est. Tu sais, quand tu mets un arbitre, c'est pareil, la Ligue des Champions, le VAR, les arbitres, ils s'habituent au VAR. Tu mets l'arbitre était slovène. En Slovénie, il n'y a pas de VAR. Donc, ils sont pas habitués à arbitrer.
C'est d'ailleurs pour ça que c'était les Italiens dans le cas.
Exactement. Oui, mais sauf que, après, c'est tout con. Lui, il pense, parce qu'au départ, il signale pas, lui. Il la voit, la main, parce qu'il est pas loin. Il signale pas. Pour lui, il n'y a pas main. Mais après, quand on a l'oreillette, il dit, attends, on est en train de regarder le VAR. Bah, va voir, parce que pour nous, il y a pénalty. T'es déjà dans
influencé.
Une... Eh ben ouais, mais, naturel, ouais, c'est naturel.
Tu sais, ce pénalty, en fait, pour moi, c'est la métaphore totale de ce match-là. Ça aurait pas dû arriver, l'élimination ou le pénalty, mais Paris s'est mis dedans tout seul,
mais
à l'image de Kimpembe qui saute dodo comme un idiot.
Mais là, on parle, c'est le fait de jeu. Là, on revient sur le truc. Bien sûr qu'il y a plein d'autres analysés avant.
C'est symbolique du match. Ça aurait pas dû être sifflé, mais Paris l'a provoqué lui-même.
Ouais.
Alors, juste pour finir sur le VAR, foudrage aussi les Italiens de la Roma, hein, puisqu'ils estiment qu'il y avait une faute sur Chic qui aurait pu les qualifier, qui aurait donné un péno.
Il ne le touche pas.
Et là, Palota, le président de la Roma, dit, l'an dernier, on a réclamé le VAR en Ligue des Champions parce qu'on s'est fait flouer en demi-finale. Ce soir, on a le VAR et c'est encore nous qui nous faisons voler.
Tu te rappelles de l'action, Gilbert? L'action sur Chic.
Les Italiens, ce matin, ils titraient Porto en quart grâce à la télé.
Non, mais il n'y a pas faute en plus. Vous voyez l'action.
Manchester en quart aussi grâce à la télé.
Vous voyez l'action dans.
Non, moi j'ai pas vu. Donc.
Il l'effleure. Il n'y a même pas contact, il l'effleure.
J'aimerais quand même, Julien.
Même Simonet disait qu'il n'y avait pas pénalty.
C'est pour dire.
Est-ce qu'à Manchester, quand même, on a conscience du truc dingue de jouer avec des gamins en fin de match, dont un qui n'avait jamais joué en pro? Là, donc ce soir, je répète l'anecdote, ils sont quand même passés pour floquer le maillot de Greenwood. Ils sont passés à la boutique du PSG parce que, bon, sans doute, il n'est pas prévu qu'il joue celui-là, tu vois.
Tout à fait.
Donc, ils passent quand même avec ces types-là. Donc, alors, ok, Fergie Time, Soldier et compagnie, Solskjaer, Super Sub, truc mûche. Enfin, excuse-moi, ils ont quand même eu une baraka extraordinaire.
Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à le reconnaître aujourd'hui. J'ai quand même eu des questions à la radio anglaise ce matin. Est-ce que Manchester United peut gagner la Ligue des Champions? On est allé très très loin. On est allé très très loin aujourd'hui en Angleterre. Mais après qu'ils s'enflamment, tant mieux pour eux. Ils ont gagné avec des gamins, Tai Chong, le jeune néerlandais.
Il jouait pas la Youth League.
Il a marqué deux buts contre le PSG en Youth League, par exemple, il y a quelques semaines. Et là, ils se retrouvent contre l'équipe première du PSG et ils les éliminent. Tant mieux pour eux. Voilà, ils ont cette histoire qu'ils avaient un peu laissée de côté ces dernières années depuis le départ de Ferguson, avec un très bon centre de formation. qu'ils n'avaient plus du tout utilisé depuis quasiment la génération dorée de Beckham, Giggs, etc., etc. Bah là, ils ont une nouvelle génération qui arrive qui est très forte, mais ils ont quand même un peu oublié pendant la nuit que effectivement c'était plus le PSG qui leur avait offert cette victoire que
parce que
eux qui étaient allés la chercher loin.
France, c'est un cadeau.
Non, non, mais parce que on peut parler de cette jeunesse, bien sûr que bon, ces jeunes ils découvrent le haut niveau, mais quand tu vois l'entrée des deux joueurs et surtout de Chong,
le premier, il est catastrophique, il perd tous les ballons et tous les duels.
Il les a mis en difficulté.
À un moment, il en perd une plein axe. Ouais. Quand Mbappé joue très mal.
Mais même dès qu'il marque le but, dans les arrêts de jeu, derrière, il perd des ballons.
C'est plein. À un moment, il perd plein axe.
Donc c'est pour dire aussi à l'image de ce joueur-là que Manchester a fait un tout petit match, et ça c'est pas dénigrer la qualif, bien sûr que elle a été offerte, et ça il faut le reconnaître, offerte parce que le PSG a fait les cons à plein de niveaux,
mais ils ont fait le match qu'ils devaient faire avec les joueurs qu'ils avaient à disposition.
Franchement, je pense que c'est l'équipe la plus faible de Manchester United que j'ai vue depuis que je suis né, c'est la plus faible.
Souvent Gall, mais
sur le match d'hier, la pauvreté technique
sur le match d'hier,
j'ai pas le souvenir. Alors bien sûr qu'il y a, comme vous me dites, Van Gaal, bien sûr que l'équipe elle était pas flamboyante, mais sur le match d'hier, quand tu vois que cette équipe de Manchester United en première mi-temps elle mène 2-1, je crois qu'ils ont fait 4 passes dans le camp parisien. C'est sur le but de Rashford.
Ils ont 17% de possession de ballon.
4 passes de suite. Sur le but de Rashford.
Il a touché 3 fois le ballon dans la surface parisienne en première période.
Non, mais c'est, et sur l'ensemble du match, c'est 4 tirs cadrés, 3 buts.
Après,
c'est incroyable.
Les absents qu'ils avaient, ils ont fait le match qu'ils devaient faire,
Julien.
Mais tout le monde loue ici le coup tactique de Solskjaer. Donc tout à l'heure j'étais chez Duga, et donc pareil, même question, qu'est-ce qu'il se dit? Alors voilà. Et Duga me dit, Quel coup tactique, parce que je vois pas du tout à quel point la performance tactique de Solskjaer a été magique, et je lui ai dit je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai un peu de mal à la voir. Il a joué très bas, c'était ça le plan de jeu, c'était jouer très bas et après avoir un peu de réussite soit en contre soit effectivement
avec
sur
la blessure de Bailly
adverse. Moi, la blessure de Bailly elle arrive au bon moment pour eux quand même, parce qu'il avait été horrible jusque là.
Alors si on va là-dessus pour essayer de voir un petit peu de positif et comprendre ce que la presse anglaise a voulu mettre en avant sur le coup tactique, c'est que tu te dis que à la mi-temps, c'est dû au fait que le PSG a fait une deuxième mi-temps catastrophique dans l'entame, dans l'envie, et puis après dans la crainte, certainement. Mais il y a une façon de défendre qui est différente et qui est mieux respectée et qui marche sur la deuxième mi-temps. Parce que sur la deuxième mi-temps, le PSG a frappé que 3 fois au but. Donc ils ont concédé beaucoup moins d'occasions qu'en première mi-temps. Mais me dire que c'est un coup tactique en menant 2-1 à la mi-temps. Mais quand tu revois le match, et je l'ai revu hier soir parce que j'arrivais pas à dormir, donc je me suis retapé ce match de merde pour regarder, pour me rendre compte. Et en première mi-temps, mais ils prennent un bouillon, ils touchent pas le ballon.
Mais ils ont 13% de possession de balle.
Et Paris arrive à faire des décalages sur les côtés, surtout à gauche, où ils passent systématiquement avec un Bailly en grande difficulté. Donc si le coup tactique c'est d'avoir mis Bailly arrière droit, moi je dis chapeau aux Anglais.
Julien, merci beaucoup.
Merci, bonne émission.
Ciao. Salut.
Ciao. Ciao. Un point sur les matchs d'Europa League qui sont en cours. Timothée Mémon.
3-0 à présent pour Naples avec le but contre son camp de Salzbourg. Le demi-finaliste de la saison dernière face à Marseille est en grande difficulté, pas loin d'être éliminé. À l'instant, Krasnodar vient de réduire l'écart face à Valence. 2-1 à présent pour Valence face à Krasnodar. Et puis Chelsea mène toujours 1-0 face au Dynamo Kiev.
Et en handball, je vous signale que le PSG a définitivement gagné face à Nantes. 34-29. Dans quelques instants, nous sommes de retour dans l'after pour parler du PSG. Nasser nous attend. On va parler aussi de Patrice Evra, puisqu'on a quelques infos à vous donner suite au coup de gueule de Jérôme hier soir. Le PSG au programme, Nîmes Olympique après 23h bien sûr, plus le foot sud-américain. Et puis si vous nous rejoignez à 22h21 dans l'after, je rappelle que Rennes tout à l'heure a brillamment battu Arsenal 3-1 en 8e de finale aller de l'Europa League. À tout de suite dans l'after.
RMC L'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten et Jonathan McCarthy sont là. Le PSG est au programme, bien sûr. Une petite info en provenance d'Espagne. Certains médias espagnols commencent à frémir. Solari devrait quitter son poste au Real et Mourinho est annoncé de plus en plus. Donc on attend les confirmations, bien sûr. Fred Hermel nous le dit depuis deux semaines, hein, donc ouais. Ce serait pas une surprise.
Mais, hola chicos, il va être content, hola chicos.
Voilà, les choses semblent se préciser ce soir. Donc
comment il l'appelle, hola chicos,
éventuellement.
Mourinho. Jo, José,
Mou.
Ouais, je crois qu'il aime pas trop. Hein.
Ça se passait pas très bien entre Fred Hermel et Mourinho à l'époque. Ils étaient pas super potes.
Il avait touché à Benzema.
Petite info PSG. Vous savez que Adrien Rabiot, donc hier après le match, il avait pas joué, hein, évidemment, est sorti avec des amis en discothèque après la défaite hier du PSG. Réaction pour RMC Sport d'Antero Henrique aujourd'hui qui dit: je trouve inacceptable l'attitude et le manque de professionnalisme d'un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters. Je rappelle que jusqu'au 30 juin, il fait partie de notre effectif, dit Henrique.
C'est une blague.
Bah non.
Pourquoi c'est ce qu'il a dit.
Non, c'est une blague. Alors, il y a deux choses. Que lui se permette de faire ça, même dans la situation actuelle, c'est limite. Mais bon, encore. Écoute, il est carré. Voilà, c'est une façon aussi de montrer son détachement. Mais alors que Antero Henrique, il ose répondre, mais qu'il s'occupe déjà de régler d'autres choses. On va revenir encore à la même affaire. Je sais pas si on en parle maintenant.
Non, maintenant. Là,
de Patrice Evra tout à l'heure. Mais déjà, régler vos problèmes en interne. Régler l'image du club qui est détestable au possible. Alors tout à l'heure, je mettais en avant, et je vais pas repasser 5 minutes à parler de la vidéo de Patrice Evra, parce que franchement...
Oui, mais t'as quand même quelques-uns.
Mais par contre,
hier soir a beaucoup fait réagir aujourd'hui.
Ouais,
et t'as quelques précisions.
Même des membres du club hein, qui m'ont déjà appelé. Alors, bien sûr, je leur ai dit que j'allais rectifier, et c'est logique. Quand tu dis des bêtises, il faut aussi les assumer. Donc, la corbeille sur les matchs de Champions League, le carré... Le protocole là qui est mis en place.
La tribune officielle du PSG.
Voilà, c'est l'UEFA qui la gère sur les matchs de Ligue des Champions. Donc le PSG n'a pas son mot à dire. Il y a 20 places accordées dans le protocole au Paris Saint-Germain. Donc les 20 places, je te retire le président, tout ça, hein, les membres du ça, mais ils ont 20 invités à mettre le PSG et pareil pour Manchester United. À l'intérieur, qui gère la sécurité, c'est l'UEFA. Ok, pas de problème. Attention, hein, y a quand même des stewards du Paris Saint-Germain qui sont là et qui aussi peuvent interrompre des problèmes s'il y a. Donc déjà, ça c'est la première des choses. C'est pas le PSG qui a invité Patrice Evra, donc c'est ce que j'avais dit. Mais j'avais dit dans la délégation Manchester, c'était Paris qui décidait. Donc là, non, en effet, c'est l'UEFA qui a décidé. Donc Patrice Evra était en effet dans le carré. Mais quand t'as, mine de rien, un joueur, un ancien joueur, un membre de cette délégation qui se permet de faire de telles choses, de parler fort, de chambrer, de ceci, cela. Le chambrage fait partie du football, j'en suis le premier responsable et garant de ça, si tu veux. Et il faut que ça reste. Mais après, il y a un respect à avoir. Et vu qu'il a manqué de respect, que personne lui a dit sur le coup et on l'a pas viré du truc, alors que ça serait passé dans n'importe quel autre stade européen, c'est ce que je disais, et que le PSG, là-dessus, ils doivent accentuer encore plus l'image pour ne pas me donner envie à ce genre de personnage.
Et de ce comportement
voilà.
De se produire.
Exactement.
Surtout que ils sont très sévères, hein, normalement, dans la corbeille.
Non, mais ils sont très sévères et ils doivent l'être.
Très vite te faire
ils doivent l'être et ils doivent corriger ça pour ne pas donner envie à Patrice Evra et d'autres de faire ce genre de comportement. Déjà parce que tu dois respecter ce qu'est le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on le respecte pas parce que on te donne l'opportunité d'avoir de tels comportements. Ça c'est la première des choses. Après le PSG a quand même pas apprécié ce qui s'est passé. Le PSG a porté plainte auprès de l'UEFA sur le comportement de Patrice Evra. Et ça c'est la vérité, c'est
porté plainte auprès de l'UEFA.
Oui, parce que c'est l'UEFA qui gère si tu veux le protocole. Donc
il y aura quoi, quelles sanctions sont possibles?
Ah, je sais pas. En tout cas,
dans ce qu'il a fait, quoi.
Ils ont pas accepté le comportement et je trouve que ça c'est bien parce que là, en effet, ça tâche l'image du club.
Ils auraient dû faire un communiqué.
Et après, il y a eu un comportement aussi dans les coursives. Oui. Qui n'ont pas été appréciés. Il a failli se faire dégager plus d'une fois et il aurait dû. Parce que s'il a ce comportement, ça je l'ai pas vu, donc là c'est ce qu'on m'a dit, s'il a ce comportement, au d'un moment tu dois, là t'as des stewards, moi ce que je veux dire que, t'imagines que moi je suis au bord du terrain, je suis pas le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, j'y ai passé 6 ans, je montre beaucoup d'attachement à ce club parce que je l'ai dans la peau. J'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'étais tout gamin, mon père m'emmenait à 4 ans, donc c'est logique. Et ça, c'est pour répondre à tous les intelligents des réseaux sociaux qui t'insultent en disant tiens nanan, tiens dans ta tête. Moi j'en ai rien à faire, j'ai pas perdu, moi j'appartiens pas au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Par contre ça me touche, comme ça me touche quand ça arrive dans un club français de prendre une claque, une grosse claque, n'importe quel club français, ça me touche parce que je suis passionné de football et je suis un citoyen français. D'accord.
C'était donc ça quand Marseille a perdu contre l'Atlético.
Mais bien sûr que ça me touche. Ouais. Mine de rien, ça me touche. Alors pas
différemment. Toi, arrête.
Mais différemment.
Mais je te charrie.
Mais différemment, bien sûr, parce que on est comme ça. Moi, c'est mon enfance, c'est ma vie. J'ai passé une grande partie de ma vie de carrière et j'ai donné et j'en donne encore du temps au Paris Saint-Germain. Donc c'est comme ça. Moi, ça m'emmerde. Je suis désolé, mais ça m'emmerde d'avoir de tels comportements et que l'image de ce club qui est désastreux sur le terrain, parce qu'on en parlait hier avec ce qu'il nous montre, et là t'es la risée de l'Europe. Mais ce genre de comportement, c'est inadmissible. Tu dois avoir à la tête du club ou dans l'organigramme du club des gens qui aiment ce club.
Au
point final. C'est tout.
C'est et au ça, aussi de faire
et ça, il faut
là.
Non, mais le président, c'est un effectif. On en reviendra tout à l'heure.
Là, ça,
et ça, il faut le régler.
Alors, on va y revenir. Voilà.
Mais le PSG a pris les choses en main quand même. Je tenais à rectifier tout ça.
J'aimerais vous lancer sur un truc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Le PSG, la risée de l'Europe. Chambrage,
bien sûr,
partout,
genre, bien sûr.
Oui, mec, la remontée là il y a deux ans,
bien sûr.
Plus hier soir, c'est grotesque, etc. T'as l'histoire, Evra. Le PSG se fait régulièrement victimiser par les autres clubs. Devant l'UEFA, le fair play financier, tout le monde veut leur peau. Enfin, c'est un truc.
Gilbert, juste voilà. un petit détail. Trantic, c'est la risée de l'Europe. Il y a même des journaux généralistes anglais, comme The Guardian, qui ont fait des papiers du style le PSG, c'est la machine à fric et c'est bien fait pour leur gueule.
Il y a cette image-là, effectivement. Que pareil pour Manchester City, hein, par ailleurs, qui traîne ça aussi. Dès que le PSG veut acheter un joueur, le prix
triple
double,
tarif, comme
le ça arrive, voilà. Déjà, le PSG, ils sont en train de devenir le paillasson de l'Europe.
C'est vrai. Non mais c'est pas le paillasson, mais tu sais, c'est un peu ça. Il ressemble un peu au fils à papa, un peu ridicule, qui se fait tarter la gueule à la récré.
En fait, t'as raison, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les dirigeants des clubs sont derrière le PSG. Par rapport au fair play financier, dès qu'ils font un truc, ils ont pas accepté que Neymar vienne, que Mbappé vienne, qu'ils le chopent à certains grands clubs, parce que financièrement, en effet, ils peuvent lutter avec ces clubs-là aujourd'hui et pas avant. Donc c'est pour ça que t'as un bon côté, si tu veux, c'est que PSG est capable financièrement d'attirer. Et c'était le cas sportivement. Aujourd'hui, sportivement, ça va être très compliqué. C'est pour ça que cette défaite, elle va laisser encore plus de traces. C'est que sportivement, le joueur qui a le choix.
De la loose qui
mais
va
oui,
se,
le joueur qui a le choix entre Barcelone, Real et d'autres grands clubs, la Juve.
À l'image de Frank de Jong.
Ben oui. Déjà, ça a commencé.
C'était un signal. Mais attends, il y a, dans ce que tu dis, la risée de l'Europe. Moi, je pense que surtout, le Paris Saint-Germain n'est pas respecté parce que le Paris Saint-Germain ne se respecte pas. Tu l'as très bien dit. Il y a aucun ancien joueur qui peut être garant de l'esprit du club dans l'effectif. Un président qui a toléré les pires ignominies et les pires comportements dans son club. On va pas ressasser, mais l'affaire Aurier, les propos de Zlatan, même les propos de Thiago Motta, qui est un mec remarquable, mais les propos de Thiago Motta quand il arrive. Le PSG ne se respecte pas. Et même de jouer comme ça avec ce maillot, qui n'est pas le maillot du club, on va me dire oui, mais on est en 2019, c'est du marketing. Mais c'est un signe ostensible que tu ne respectes pas l'histoire de ce club, qui est un maillot qui est mythique, qui est un des plus beaux maillots au monde,
mais
qui est une vraie histoire.
Surtout,
et c'est à l'image de ce qui se passe au club.
Surtout, c'est ce genre de, t'as raison de le mettre le maillot. Parce que ça, c'est réclamé aussi par les passionnés,
le
les vrais supporters
du
PSG.
Le maillot Esther, c'est important. Moi, tu sais très bien que je suis pas sensible, mais c'est un beau maillot, putain, c'est historique. Jouer avec ce maillot-là en Ligue des Champions.
Le Qatar, et c'est.
Avec le Real, il va pas jouer en rose.
Les dirigeants ont essayé, mine de rien, ils ont fait beaucoup d'erreurs quand ils sont arrivés. Sur le passé du club, dans les déclarations de joueurs, de
même
pas.
Même Motta, alors qu'il c'est un chic type Motta, même Motta s'était essuyé les pieds sur le club.
Il y a eu Brahimovic, il y a eu l'affaire Aurier, il y a eu d'autres affaires, si tu veux, mal gérées, et que médiatiquement ça fait beaucoup de mal par rapport à l'image du club. Oui, mais après, bon, ils ont pas sanctionné sur le coup. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par tout ça, parce que sportivement, tu passes pas le cap. Donc, aujourd'hui, il est temps, et de toute façon, ils auront pas le choix.
Mais c'est lié, hein.
Ils auront
mais c'est
pas
le choix.
Jonathan,
forcément, tu passes pas le cap et que tu auront... pas rattrapé ça, c'est lié.
Là,
pour moi.
Ils ont plus le choix. Parce que c'est soit, c'est dur, hein, de dire ça, parce que c'est mettre le PSG en péril, mine de rien. C'est soit le Qatar dit, bah, écoute, on passera pas, l'image elle est désastreuse, on se casse.
Alors, je t'attends, je te dis tout de suite pourquoi, pour l'instant, je m'inquiète pas trop là-dessus. Je pense que le Qatar, dans la situation diplomatique dans laquelle ils sont, avec leurs voisins des pays du Golfe, où c'est toujours pas apaisé, ils ont besoin du Paris Saint-Germain.
Bien sûr, oui, non, mais aussi. Donc,
dans 2-3 ans, on en reparlera.
Mais moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas la solution. Donc, ils restent parce que ils ont ce pouvoir financier qui est intéressant. Mais par contre, après, il faut savoir à l'intérieur dire, ben, on a fait ça comme erreur. Maintenant, écoute, mais on va faire table rase du passé.
T'aurais déjà dû après Barcelone.
Mais oui, mais ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, voilà. Là.
C'est pour ça que c'est inquiétant.
Là, on est la risée de l'Europe. On est le paillasson de l'Europe, comme dit Gilbert. Et c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est dur de le dire pour quelqu'un qui a porté fièrement les couleurs de ce club et d'autres. Parce que. C'est le sentiment de honte pour tous les Parisiens aujourd'hui. Tous ceux qui ont ça, ce club, c'est une honte. Et j'espère que les joueurs, les dirigeants aujourd'hui, ils ont ce sentiment-là. J'ai bien peur qu'ils l'aient moins que les vrais passionnés. Donc, reprends tout. Tu fais table rase du passé. On a fait des erreurs. Là, on va reconstruire. C'est pour ça que pour moi, Nasser, il a cette relation et il faut pas la changer.
Quelle
parce
relation?
Que avec les joueurs, c'est un affectif. Et quand t'es un joueur de football, fais-moi confiance, Jonathan. J'en ai eu
des
présidents qui sont au-delà de leur fonction et qui veulent te rentrer dans le chou.
Quitte à faire
le rôle de l'entraîneur. Non, le président, il est là, il est dans l'affectif, très bien.
C'est bien.
Non.
C'est trop là.
Non.
C'est ridicule.
Mais non, parce que tu peux être dans l'affectif, mais dans ces cas-là, tu t'entoures de directeurs sportifs, pas forcément qu'un. Tu peux avoir 2-3 personnes qui chapotent.
Bah, il en a, hein. Il a Maxwell, il a Antero.
Mais attends, Maxwell,
donc, il les a mal choisis.
Maxwell, il fait son job et il débute. C'est pas facile, il faut lui laisser le temps. Mais je pense que Maxwell, il a besoin aussi d'être encadré et d'avoir un vrai personnage au-dessus de lui.
Alors, je vais lui répondre.
Réponse de Jonathan,
Pour moi, c'est le point crucial de l'état du Paris Saint-Germain. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que c'est bien d'avoir, moi j'ai pas été joueur, j'en sais rien, mais d'avoir un président proche qui te cajole un peu. Mais là, je suis désolé, c'est trop. D'une part, c'est trop parce qu'il a rendu, je pense qu'il a affaibli certains joueurs en les installant dans un certain confort à l'image de Thiago Silva. D'une part, c'est trop parce que c'est lui qui a choisi les personnes pour s'entourer. C'est lui qui a choisi Antero Henrique, etc. Et il a fait des mauvais choix.
Mais bien
c'est
sûr.
Trop parce qu'il a jamais su trancher entre son directeur sportif et son entraîneur, après le mercato
de l'air désastreux.
Et le dernier point, c'est justement là, c'est là où tu mets le point sur ce qui est important, c'est que c'est un président, c'est pas Jean-Michel Aulas, il est pas propriétaire du club. Donc tu peux facilement le changer pour quelqu'un qui a une vraie expérience du football, qui connaît le monde du football et qui saura s'entourer.
Je suis pas sûr qu'il fasse confiance à quelqu'un qui est pas de chez eux, hein.
Philippe, bonsoir.
Eh oui.
Philippe, est-ce que toi aussi tu penses que le PSG est en train de devenir le paillasson de l'Europe?
Alors, entendre ces mots pour nous est super difficile. On vit l'amour qu'on a pour ce club depuis plus de 40 ans. On est abonné au stade à côté de la Corbeille où se trouvait Patrice Evra. On a été hyper choqués. On vit très très mal, on a passé une journée horrible aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour nous ça a été une punition.
Déconnecte.
Philippe ?
Oui, vous m'entendez ?
Déconnecte juste les réseaux sociaux.
Continue.
Voilà, donc c'est un moment qu'on peut pas déconnecter des réseaux sociaux parce que on vit à l'heure du numérique et c'est impossible pour nous si on est supporter du PSG, on a tous des comptes Facebook. On a tous créé des clubs du PSG. Nous, on a un club qui s'appelle le Club des Mille. On dialogue, on partage nos émotions. Et voilà, et c'est très difficile. Et l'attitude que a eu Evra nous a énormément choqués parce que c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. Nous, on fait les déplacements, hors encadré par le PSG. On se tient d'une manière correcte. On n'insulte personne. On supporte notre équipe de manière à l'intérieur. On respecte les gens qui sont autour de nous. Là, on a été à Naples, on a respecté les Napolitains. On a été à Manchester au match aller. On était entouré d'Anglais. Ouais. On ne s'est pas manifesté.
Ça s'est bien passé, voilà.
On respecte parce qu'on a la culture. On sait ce que c'est le football. On comprend ce que peuvent vivre les gens quand on perd 2-0. Et l'attitude de Evra, eh ben, c'est une offense à nous. Ça nous a offensés. Et voilà. Et on peut remercier Jérôme, parce que lui, c'est le porte-parole de tout ce que nous, on peut pas dire. Parce qu'on n'a pas accès aux médias, et ce qui est normal, c'est pas notre métier. Et voilà. Et on vous remercie. Et on remercie Jérôme parce que, voilà. Il est ce que nous, on ressent. Et il a l'amour de ce club comme nous, on l'a eu. Et pour le club et pour sa personnalité. Parce que, voilà. Merci à lui. Merci à l'acteur de laisser la parole aux supporters. Ça nous fait du bien de parler. On a vécu une journée horrible. On vit plus mal qu'encore que Barcelone, parce que Barcelone, pour nous, ça a été une catastrophe, mais celle-là, on va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, parce que c'est impardonnable ce qu'ont fait les joueurs, mais les joueurs s'en foutent. Voilà, ils sont surpayés.
Toi, t'en veux aux joueurs, toi, plus qu'aux dirigeants, par exemple,
mais
ce soir.
Mais aujourd'hui, j'en veux à tout le monde. Je m'en veux à moi. Je m'en veux à ces mercenaires.
Mais tu es pour rien, toi. Je te rassure, si ça.
Mais non, mais parce que, mais parce qu'on aime. Non, mais on aime ce club. Vous pouvez pas imaginer le. On a été à Caen. On a été à Amiens. On fait les déplacements. On demande rien à personne. Et quand on les voit se comporter moins comme ça, quand je vois Marquinhos nous demander pardon et Thiago Silva qui commence à avoir un comportement, on l'a eu, on l'a vécu à Barcelone, ils nous ont demandé pardon, ils ont eu de la peine, voilà, ils ont mis un sparadrap sur Barcelone et résultat, qu'est-ce qu'il en est? On a été battu contre une équipe de district, des Kerrer
dans le niveau de Gilbert, Kerrer, ça c'est dur.
Non, les, c'est fou choisir.
En national. Pourquoi on a été cassé Kerrer? Parce qu'il est allemand, parce que l'autre c'est son pote, il le fait jouer, et puis il ne veut pas se déjuger. Voilà, ça veut dire que Thomas Tuchel n'a fait pas plus que moins que les autres. Voilà, c'est tout. Il a mis ses potes, Draxler, Kerrer, et alors...
Ah, il avait été bon au match aller, Kerrer. Hein.
Ouais, mais là il t'a coûté le match.
Ouais, bien sûr. Et alors, pourquoi on a été acheté par Rennes? Pour pas le faire jouer? Pour le pas le faire jouer? On achète un mec 40 millions pour le laisser sur le banc? Mais attendez, mais est-ce qu'on se fout de la gueule du monde?
Faudrait pas en parler de l'arrivée de Paredes. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Qui l'a fait venir? Comment il est venu? Par quel moyen
il est venu? C'est vrai que.
Mais pourquoi on l'a pas fait jouer? Pourquoi il est pas titulaire?
Bah, je pense que le coach ne voulait pas vraiment la base.
J'ai une question, parce que on a analysé le match hier, on a parlé des performances des uns et des autres, on en a fait beaucoup sur Buffon. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui veut réagir ce soir sur Buffon. On va pouvoir le faire aussi. Mais comment tu vois la suite là, à court terme, la fin de la saison, Philippe?
À la fin de la saison, on va être champion de France. Ah ouais, tu vois pas la belle affaire. Très bien. On va gagner. On va normalement gagner, s'il n'y a pas encore un accident industriel, on va encore gagner la coupe de France. Ouais. Et on va attendre 7 mois. 7 mois pour entendre la chanson.
C'est ça qui est long.
7 mois pour attendre la chanson comme un enfant. Comme s'il y a un enfant prématuré.
C'est voilà. Vrai. Je te coupe.
On va attendre. Dans 7 mois, on va commencer. Mais parce que c'est quoi le football? Nous, on vit pour la Coupe d'Europe. On vit pour la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Le championnat, il n'y a personne. C'est pas ces pingouins de l'OM qui vont nous faire rêver.
Oh, calme-toi un peu. Hein.
Ouais. Toi, c'est dur pour l'OM quand même.
Ouais, quand je vois le comportement de Payet, eh ben, ça nous donne envie.
Ça, c'est sûr que là. Voilà.
Non, mais en même temps, Philippe, pardon. Il faut. Ça fait partie aussi comme le dit Jonathan, du paradigme du football. Non,
et puis Payet et Boulassar reconnaissent les parfums du final
par contre, là-dessus, tu vois.
Thiago Silva, il la connaît pas.
Tu sais, quand je parlais de chambrage tout à l'heure, ça fait partie du chambrage, si tu veux, de trucs. Alors oui, c'est peut-être déplacé de la part de Payet par rapport à la saison qu'il est en train de vivre et de l'OM.
Exactement.
Voilà, mais sinon tu peux pas en vouloir aux Marseillais de t'allumer. Le championnat de France.
Moi, je me souviens l'an dernier à la finale de l'Europa League, les Parisiens étaient ravis.
Mais moi, je te dis une chose.
Je te dis une chose
que le championnat.
Tu es en train de chialer.
On a besoin de cette confrontation.
Ça fait partie du folklore.
Mais si t'as plus ça. Mais écoute, c'est déjà qu'on s'emmerde parce que Paris a 20 points d'avance, mais alors là, c'est fini. C'est vrai qu'il faut l'accepter.
Tu veux que je te dise, heureusement qu'il y a Strasbourg qui vient au Parc des Princes pour qu'il se passe des trucs.
Non, heureusement que Thierry Loret nous sort des bananes pour faire parler parce que, franchement. Allez, Titi.
On revient début avril.
Ouais. Ah bon?
Ah oui?
Ah bah, je viendrai, j'irai lui faire la bise.
Je crois qu'il t'attend.
Ah, Titi Loret. Bah ouais, mais il m'aime bien, en fait.
Bon, Philippe, en tout cas, moi, je comprends bien ta déception. Là, fin de la saison, mais le problème, c'est comment se relever aussi maintenant. On va se poser cette question-là dans quelques instants. Que faut-il faire? Si toi, t'avais une ou deux décisions que tu voudrais voir prendre rapidement, ce seraient lesquelles, Philippe?
Ah bah, je pense que ça serait de rappeler certains historiques du Paris Saint-Germain, de revenir recadrer tout ça. Il faut donner la parole aux anciens.
Ah oui.
Il y a plein de joueurs qui attendent que ça.
Tu veux
ça.
Du Luis, tu veux du Roten.
Non, mais attendez, franchement, j'ai rien contre Luis Fernandez. Mais Luis Fernandez, oui, mais il a fait son temps, il est venu, il a été entraîneur,
il est dans la gagnante.
C'est bon. Oui, non, mais voilà, non, on a besoin. Ça. Vous savez de qui on a besoin? Je vous le dis franchement, on a besoin de Rai. On a besoin de. On a besoin de Jérôme au Paris Saint-Germain. Alors il est sur RMC, tant mieux qu'il y reste, tant mieux.
Ouais, puis qu'est-ce que voilà. Je suis bon, le trou que je laisserai ici, c'est pas possible.
Ah ouais, ça c'est sûr. Ah. Mais on a besoin de rails, on a besoin de gens de comme un homme comme Valdo. Voilà, des gens qui ont marqué l'histoire.
Oh, Paris, Valdo, il habite la région parisienne. Enfin, non, je crois qu'il est parti là. Mais il habitait la région parisienne, le PSG en voulait
c'est
pas.
Vrai, c'est vrai que...
Il était à Saint-Maur, le gars.
En fait, je pense que c'est utile. Et dans tous les clubs européens, ça se passe comme ça. Je crois qu'à chaque génération, tu as marqué l'histoire du club. Sûr. Et que tu as des joueurs qui se sont identifiés.
Bien sûr.
Attention, il y a entre marquer l'histoire du club et ceux qui sont très identifiés, Paris Saint-Germain ou d'autres. Hein, ce que je veux dire, attention, c'est pas tout le monde.
Il y a un truc quand même sur les anciens. Excusez-moi, faut quand même avoir des compétences.
Exactement.
Mais personne n'a
kiffé les supporters. Non, mais tout à coup, en te pointant, tu vas gagner. Mais là, je te rejoins.
C'est pour ça que déjà parce que les anciens, il faut qu'ils aient envie d'apporter quelque chose. Il faut qu'on leur trouve un poste qui leur correspond
et qu'ils fassent le boulot.
Et qu'il n'y a pas tout le monde qui peut être directeur sportif. Il n'y a pas tout le monde qui peut superviser. Il n'y a pas tout le monde qui peut accueillir des. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, quand je te parlais du carré, on parle du carré en Champions League. Mais t'as vu le carré? Comment ça se passe en championnat? Alors moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que quand j'ai envie d'aller voir un match, soit je vais dans les tribunes latérales pour être tranquille et de le faire avec mes potes, soit je vais dans le carré, on va pas me refuser des places. Ok, d'accord, ça c'est à dire. Par contre, il y a des places qui sont refusées à d'autres. Ça c'est moins normal. Et surtout, où c'est moins normal, c'est que quand tu vois mais la gueule de certains invités de cette corbeille de ce carré, mais c'est pas possible. Mais attends, mais tu sais que des fois
je voudrais pas que les gens pensent que tu focalises sur le sur ce truc qui pour toi en fait symbolise.
Mais pour moi c'est la base parce que pour moi ça
symbolise quel club aujourd'hui.
Mais parce que quand t'arrives comme ça, même les joueurs actuels qui connaissent pas forcément, et c'est normal, des choses qui se sont passées il y a 25 ans.
Non, c'est pas normal.
Des choses qui se sont passées à 25 ans, quand un étranger qui arrive, c'est normal qu'ils connaissent pas parfaitement.
C'est normal.
Après, il faut leur dire.
C'est normal d'être briefé et de se renseigner.
Il faut leur dire.
Moi, je me rappellerai toujours quand, je me rappellerai toujours quand Joey Barton a signé à l'OM, le mec avait un site internet, avait rédigé un pavé sur l'histoire du club en disant qu'il s'était documenté, qu'on lui avait filé de la doc et qu'il s'était renseigné avant sur ce que le club avait. Et ça, pour moi, c'est une démarche qui est normale.
Mais c'est normal. Ça, c'est logique. Mais
c'est le club qui doit l'inspirer aussi.
Quand les joueurs arrivent, même au salon après les matchs, c'est bien d'avoir cette complicité, de voir des anciens.
Oui.
Des anciens.
Oui.
Que tu peux aller te présenter avec la nouvelle équipe.
Tu mets un visage sur les racines du club. C'est pas obligé.
Et les mecs, ils vieillissent, donc ils se reconnaissent pas. Si tu les as vus en photo, 20 ans avant, tu dis, c'est lui.
C'est important pour incarner et humaniser les racines du club. C'est important.
Et je pense que c'est plus facile de s'identifier après au club. Voilà, c'est tout.
Timothée Mémon, on approche de la fin des matchs. Il y en a 3 encore des matchs en cours en Europa League, là.
Et but à l'instant, but pour Chelsea. 3-0 à présent pour Chelsea face au Dynamo Kiev. Ce but, il est signé Hudson Odoi sur une jolie passe, un joli service de la part d'Olivier Giroud. Dans les autres rencontres, 3-0 toujours en faveur de Naples face à Salzbourg, et puis Valence mène 2-1 face à qui? Face au Krasnodar de Charles Caboret.
Charlie
Caboret,
qui est une légende de l'Olympique de Marseille,
dans l'équipe type du titre.
C'est Lucic qui a marqué pour
Porto de Lucho.
Merci beaucoup.
Prends une tisane ce soir, ça sera
bien. Non, la tisane c'est réservé aux Marseillais, n'oublie pas.
Ah oui.
Passe décisive de Loftus-Cheek. N'oubliez pas que vous pouvez toujours gagner vos places pour le match Arsenal-Rennes, match retour. Vous envoyez foot par SMS au 732-16. On a parlé de Rennes pendant un peu plus d'une heure tout à l'heure. On va continuer le débat PSG parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Et puis il y aura également après 23h le Nîmes Olympique au programme, l'équipe type, l'équipe pipe et les Sud-Américains, notamment du PSG, avec une spécialiste du foot sud-américain. On parlera de Paredes entre autres, bien sûr. L'after est là en tout cas jusqu'à minuit. On vous attend. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Jonathan Macardy, le PSG au programme. Tiens, une petite info qui vient de nous arriver là. Thomas Tuchel a laissé 3 jours pleins à ses hommes. Reprise de l'entraînement dimanche au camp des loges. Mmh. Vincent Moscato tout à l'heure disait, moi je les aurais pris ce matin à 7h.
Eh bien bien sûr.
Il leur a laissé 3 jours. Revenez dimanche les mecs.
Écoute, je pense qu'ils ont besoin de se vider la tête, de kiffer, de retrouver leurs proches et de profiter de ces moments-là qui sont rares quand même. Non mais attends, laisse-moi finir. Mais alors après, 7 jours sur 7, tous les jours.
Mise au vert.
Ouais, pas forcément, mais t'as les matchs, tu joues. Surtout que là, tu vas avoir un match par semaine. T'as les matchs, tu joues, tu reviens, décrassage, entraînement. Il n'y a pas de repos. Il n'y a plus de repos. et surtout se servir de cette période-là pour déjà clarifier les contrats l'année prochaine. Toi, je te veux plus. Toi, je te veux plus. Donc prépare le transfert. Voilà, on vous vendra, on essaiera de pas perdre d'argent, on va en perdre parce que vu le salaire astronomique de certains joueurs, c'est sûr que Thiago Silva, tu vas le revendre peut-être à un club, mais il aura pas le même salaire. Hein. Donc il va falloir que tu leur fasses un petit chèque derrière. Que Draxler, ça va être la même chose. Que Di Maria, ça va être la même chose. Que Verratti, ça va être la même chose. Parce que attends, on peut y aller. Hein. Là, Philippe, il disait qu'est-ce que je veux voir, joueur des anciens revenir. Oui, il faut des gens dans le club, dans l'organigramme, qui sont amoureux de ce club.
Qui
sont ça. Mais là-bas. C'est pas ce qui se passe en dehors, c'est sur le terrain. C'est 50% de l'équipe d'hier qui dégage, c'est 50% de l'effectif qui dégage.
Mais d'abord, c'est fini en Europa League. Les derniers matchs sont terminés, Timothée.
Absolument, c'est terminé. Victoire de Chelsea 3-0 face au Dynamo Kiev. Napoli s'impose sur le même score face à Salzbourg. Victoire de Valence 2-1 face à Krasnodar un petit peu plus tôt dans la journée. Le Dynamo Zagreb l'avait emporté sur le Benfica 1-0. 0-0 entre l'Eintracht Francfort et l'Inter. Séville, Slavia Prague 2-2. Zenit Saint-Pétersbourg, Villarreal. Victoire de Villarreal à l'extérieur 3-1. Et puis évidemment, la victoire de Rennes 3-1 à domicile face à Arsenal.
Alors, merci Timothée. Rentrons dans les détails. Grand ménage demandé par Jérôme. On a Nasser au 32-16 qui est là. Salut Nasser.
Bonsoir.
Il y a le temps, Nasser.
C'est un homonyme.
Vous m'entendez?
Ce n'est pas salut Nasser à la FI, bien sûr.
Salut Jérôme. Salut tout le monde. Bonsoir. Merci de me donner la parole.
Pas de souci. Toi aussi, tu veux faire le grand ménage?
Grand ménage très vite, mais en fait, je crois qu'on revient à ce qu'on disait il y a deux ans, lors de la remontada, tout simplement. Donc en fait c'est juste un copier-coller et il se passe strictement rien parce que j'ai l'impression qu'ils sont que mon homonyme Nasser est sur Jupiter avec tous ses collaborateurs, donc c'est complexe. Je sais pas s'ils arrivent à recevoir les messages nécessaires, notamment pour véhiculer la nécessité de ramener des anciens au sein de la sphère directrice.
Attends, grand ménage, c'est quoi? C'est-à-dire les gars qui ont fait les deux fiascos là, que ce soit la remontada.
Mais faut virer Nasser El Khelaifi en premier lieu.
Mais bien sûr.
Il faut le virer en premier lieu, tout simplement.
Actuel du PSG.
Il
représente la défaite, ça y est, c'est terminé maintenant. Ça y est, il a cramé le club, pour moi, j'ai l'impression, à l'échelle européenne. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le club est vicié à la moelle. Tout simplement. Il est là, pour moi, le fond du club. Parce que si on reprend un peu, pour les plus anciens, moi, j'ai que 30 ans, mais pour les plus anciens, le club, malheureusement, il s'est construit sur le fondement de grosses désaventures européennes. Le 6-1 face à la Juve de Zizou, Boavista avec Ronaldinho, on se fait éliminer en UEFA, Maccabi Tel Aviv avec un mort derrière Porte de Saint-Cloud, Tel Aviv, Maccabi Haïfa quand j'étais gamin, je m'en souviens également.
Il y a plus longtemps les Watershey et compagnie, mais enfin bon.
Exactement.
Et autre vidéoton.
Et le problème, c'est que en fait, faut se faire à l'idée que l'ADN du club. Il est naze, tout simplement. En fait, c'est moche à dire, c'est très triste. Et on a beau être supporter, ça nous empêche pas d'être lucide. On aime le club, comme Jérôme Bretagne, PSG.
Les
belles épopées, c'est quoi?
Je rappelle bien que le PSG a gagné une Coupe des Coupes, qu'il était en demi-finale. La Coupe des Champions.
Alors moi, quand je pense aux épopées européennes ou globales du PSG, je pense à deux choses. Je pense à Ngoti, son coup franc face au Rapide de Vienne. Je pense également à Casque d'Or. Mais Casque d'Or, c'était quoi? C'était il y a 26 ans.
Oui.
Alors, revenons sur le ménage là. Jérôme, toi, tu veux quoi? Ces mecs là qui ont fait les deux fiascos là, faut passer à autre chose. Les Thiago Silva.
Moi, je pense que tu peux pas t'en remettre. Quand t'es joueur, c'est difficile. Après un tel fiasco, on l'a vu après Barcelone. La preuve, c'est que deux ans après, tu retombes dans les mêmes travers. Dès que c'est dur. C'est caca culotte, c'est ce que je te disais. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible sur l'investissement que t'as mis sur ces joueurs-là, qui devaient t'apporter et qui t'ont apporté de la stabilité. T'es vainqueur, tu domines, archi domines sur la scène nationale en gagnant la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat. Pas de problème, pas de souci. Sur la scène européenne, mine de rien, dès que t'arrives, et c'est de pire en pire. C'est qu'avant. Le PSG arrivait à se qualifier en quart. Il y a eu les échecs, Manchester City et j'en passe. Et maintenant, c'est les huitièmes que t'arrives plus à passer depuis 3 ans. Donc là, c'est que le club, il régresse de ce côté-là. Et que ces deux grosses claques, et surtout cette claque d'hier, quand t'es un joueur de football, de toute façon, on parlait des supporters, je parle même pas des anciens joueurs, là, je te parle des supporters qui, eux, sont là. C'est l'âme du club, les supporters dans tous les clubs. Ils sont là à vie. Ceux qui bandent, du moins, excusez-moi, mais qui rêvent de foot, et dans les clubs, ils sont là, ils viennent là, il pleut, ouais, il fait froid et tout ça, ils sont là. Donc c'est eux qui sont les garants de tout ça, de cette âme du club. Ces gens-là, ils s'identifient à des joueurs depuis plusieurs années. Depuis que le Qatar est arrivé, la stratégie de Thiago Silva, je te l'ai dit, hein, les plus anciens, Thiago Silva, Verratti, Cavani, Marquinhos. Maintenant, tu rajoutes Di Maria, tu rajoutes Draxler, tu vois les mêmes têtes. Draxler, ça fait 2 ans et demi, ça fera 2 ans et demi en fin de saison. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Dani Alves qui vient se coller, se greffer.
Ouais, ils ont rapporté tous les titres nationaux.
Voilà, mais sur la scène européenne, t'es la loose. Ouais. T'es la loose.
Et notre auditeur a raison.
Donc, stop! Dégagez!
Mais notre auditeur a raison. Le vrai problème, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Tu sais, regarde, dans l'armée ou dans la mafia, il y a un truc qui est très simple, ça s'appelle la hiérarchie. Et quand il y a un fautif, c'est la tête de la hiérarchie qui prend. Non, mais non, mais c'est parce que c'est des organisations qui sont intelligentes. Et dans un club de foot, c'est pareil. Il y a une hiérarchie. Et le mec qui a la tête de la hiérarchie, c'est Nasser. C'est lui qui doit gicler.
Sauf que j'ai peur, si tu veux, en faisant ça. Mais je vous écoute.
C'est gravement illégal.
Je vous écoute sur Nasser. Il a fait des conneries, bien sûr. Et là, comme les joueurs représentent la loose, c'est les joueurs que je viens de te cité, c'est le cas de Nasser. Ah, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que si le PSG, coupe la tête à Nasser, d'accord ? Ok, l'émir décide de couper la tête et faire confiance à une autre personne. Cette autre personne, elle va regarder l'effectif, elle va dire, comme c'est le cas les dernières années, ah, lui, c'est un bon joueur.
Sauf si
lui,
connaît le foot. Sauf si c'est quelqu'un.
Oh, avec mon discours, ça va peut-être changer. Non, et rebelote, on va repartir. Donc stop. Au bout d'un moment, non. Tu sais pourquoi je dis ça?
Péché d'orgueil.
Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ils ont des statuts aujourd'hui en termes de salaire qui sont ahurissants.
Mais c'est pour ça que
moi j'entends là que Buffon, il va prolonger. T'as vu le salaire de Buffon à l'âge qu'il a? Buffon, il va prolonger. Mais attends, je vais dégueuler sur le coup. Mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, arrêtez les conneries, arrêtez l'hémorragie, coupez-leur la tête.
Mais qui décide de ça, Jérôme? C'est Nasser.
On continue le débat dans quelques instants avec vous au 32-16. Et puis on va parler foot sud-américain. Et comme il y a plein de sud-américains au PSG, ça tombe bien. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.